Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro en ce vendredi 13 mars. Je vous souhaite la meilleure des chances. Le printemps, ben, eh oui, il est presque à nos portes, là, pas tout à fait, mais on sent que ça s'en vient. Mais les méchants virus et les maux de gorge qui les accompagnent sont pas tout à fait encore derrière nous. Et aujourd'hui, Jocelyne Gadebois nous parle de l'amygdalite, une infection qui touche plus souvent les enfants, en tout cas du moins c'est ce que l'on connaît, mais également les adultes. Et elle sera là pour nous donner des conseils afin de mieux prévenir et de soigner l'amygdalite en deuxième partie. Mais d'abord, pour quelqu'un qui vit avec une maladie chronique comme la sclérose en plaques ou qui vit avec différentes limitations physiques suite à un accident ou encore un AVC, la pratique d'activité physique, c'est sans doute la dernière des envies, le dernier des intérêts, des préoccupations. Et pourtant, l'activité physique, ça peut être un facteur clé dans la réadaptation de ces personnes-là et amener de nombreux bienfaits. J'en parle à l'instant avec Lucie Duchesne, elle, du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Lucie Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes kinésiologue, donc pas besoin de vous convaincre bien longtemps pour que l'on comprenne que l'activité physique, ça contribue à une meilleure santé, une meilleure qualité de vie. Ce que l'on apprend aujourd'hui avec vous, c'est que c'est vrai aussi pour les personnes qui vivent avec différentes incapacités physiques. C'est quoi la réaction des gens que vous voyez au centre de réadaptation, Lucie Bruno, quand vous leur dites « OK, ensemble, on va faire de l'activité physique ».
Bien, en fait, on a plusieurs réactions parce que si c'est un accident qui est arrivé, je pense à un accident cérébrovasculaire, souvent les gens vont développer des peurs de bouger, des peurs de tomber, de chuter. Alors, ils vont prendre un certain temps pour s'habituer à l'idée. Mais je dirais que ça prend quand même pas beaucoup de temps pour voir la différence que quand ils commencent à s'entraîner, ils vont améliorer leur situation physique, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leur endurance, leur force musculaire, et ça va évidemment faire un lien avec toutes les activités de la vie quotidienne qui leur prennent de plus en plus de temps ou d'énergie à faire. Donc, ils voient la différence assez rapidement.
Et ça s'intègre de quelle façon, après combien de temps vous pouvez commencer à les faire bouger graduellement?
En fait, le plus rapidement possible.
Ah oui?
Plus rapidement possible et de façon plus concentrée. C'est-à-dire que souvent, suite à un incident, il va y avoir une période où ils ont été alités. Donc, ils vont perdre ce qu'on appelle la masse maigre, la musculation, ils vont perdre des capacités articulaires et tout ça. Donc, il faut aller rechercher toutes ces capacités-là. Alors, plus, et c'est prouvé aussi, que plus on va commencer rapidement, plus on va recouvrir ou carrément trouver de nouvelles façons de bouger qui vont permettre de poursuivre la réadaptation.
Oui, parce qu'il y a des risques aussi à l'inactivité.
Bien sûr, surtout quand on parle de les maladies évolutives. Donc là, on va avoir vraiment des deuils que les gens vont faire parce que c'est une maladie qui va amener des pertes, donc perte de capacité. Alors à ce moment-là, on peut peut-être commencer par dire à maintenir les acquis. On peut développer, mais les maladies évolutives, souvent les gens sont conscients qu'on parle de maintenir les acquis le plus longtemps possible. Donc, améliorer ou garder une qualité de vie.
Mm-hmm. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, Lucie Duchesne. Réapprendre à bouger ou apprendre de nouvelles façons, de nouvelles manières de bouger. Comment, dans le concret, ça se traduit, ça?
Bien, en fait, les kinésiologues, la particularité, c'est qu'on va prendre le corps au complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas fonctionner par segment, parler de jambes ou de bras, mais plus de réorganisation motrice. Donc, les gens qui sont restés avec une plégie, une partie du corps qui ne bouge plus ou qui bouge différemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aussi vite, avec une vitesse de réaction, bien, ils vont apprendre à bouger différemment, mais de se réapproprier leur corps.
Ouais.
Parce que c'est une coupure aussi avec le corps d'avant.
Est-ce que c'est approprié pour tous les usagers du centre de réadaptation? On a parlé de maladies évolutives, d'AVC, entre autres choses, mais ça s'adresse dans tous les cas?
Oui, à tous les usagers, à tous les clients. Par contre, il y a des particularités. Et ça va aller selon l'individu, mais selon aussi le syndrome ou la maladie qu'ils ont. Si c'est des accidents cérébrovasculaires, on parle souvent de facteurs de risque. Donc, il y a des particularités. Si on pense à l'activité physique et le diabète, le cholestérol, ce sont tous des choses qui vont avoir des liens. Et si on parle de maladies évolutives, mais là encore, là aussi, ça va être de porter attention aux atteintes. Et on va travailler en fonction des capacités et non des incapacités.
Mmh. Quand vous parlez de maladies évolutives, ce sont des maladies chroniques, c'est bien
oui,
ça?
Oui, ça peut être la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, le Parkinson, toutes les maladies auto-immunes, en fait. Là.
Ce qu'on entend souvent, Lucie, des personnes, entre autres choses, qui vivent avec des maladies évolutives, comme vous dites, maladies chroniques, c'est cette fatigue, cette difficulté à faire les activités du quotidien où ça demande plus d'énergie. Comment convaincre ces gens-là des bienfaits de l'activité physique et de leur dire, ben, OK, si vous restez actif, cette énergie-là, elle sera là tout de même?
Oui, en fait, quand on va voir les clients, il y a deux portions qui sont très importantes. Il y en a une, oui, on est sur le terrain, on va travailler avec la personne, lui faire découvrir des choses, mais il y a aussi la partie information. Et dans la partie information, c'est là qu'on va essayer d'élever le niveau de conviction et le niveau de confiance et passer à travers tout ce qui est la gestion d'énergie. Avec les gens avec des douleurs ou des problèmes chroniques, on a ce qu'on appelle la fatigue neurologique, qui n'est pas du tout la même fatigue que monsieur, madame, tout le monde. Donc, il y a vraiment un apprentissage à ce niveau-là. Les gens doivent apprendre à gérer leur énergie et ainsi à se découvrir à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est sûr que l'information est importante en même temps.
Mm-hmm. Est-ce que les activités se font en groupe ou plutôt en solitaire?
Souvent, il y a les deux, c'est-à-dire qu'en individuel, parce que bien sûr, c'est la personne dans son individualité, mais le groupe permet autre chose, permet des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'encouragement des pairs, il va y avoir le dépassement de soi aussi, et faire aussi des liens sociaux. Les gens vont souvent se sentir isolés, ils ont l'impression d'être toute seule
à vivre ça. Oui, oui.
Donc, le fait d'être en groupe, bien, il y a l'aspect aussi de pouvoir échanger à ce niveau-là.
Et la motivation.
Et la motivation, bien entendu, oui.
Oui. Bon, vous faites quel type d'activité? Parce qu'on pourrait penser que si l'on vit soudainement en fauteuil roulant suite à un accident, ben on ne pourra peut-être pas aller jouer au hockey comme on le faisait avant. Vous adaptez de quelle façon les activités physiques?
Bien, en fait, on a toujours la première partie, c'est celle où on va aller reconstruire. C'est-à-dire qu'on va développer les compétences d'ordre plus paramètres physiques, endurance et force, comme j'ai dit tantôt. Et par la suite, on va s'en aller. Nous, à Lucie Bruno, c'est de l'intégration. Donc, on va passer à la phase où maintenant, dans la vie, quand la réadaptation va être terminée, est-ce qu'on peut explorer, est-ce qu'on peut aller vérifier ce qu'on est en mesure de reprendre? Souvent, on est en mesure de reprendre les mêmes activités ou le même sport qu'on faisait, mais on va avoir des adaptations, ce qu'on appelle pas tant des aides techniques, mais des adaptations au niveau sportif. C'est-à-dire que je vais sur le milieu avec la personne qui, bien entendu, avait les compétences avant et je vais adapter, que ce soit le vélo, que ce soit le ski alpin. On va dans les milieux ce qu'on appelle écologiques. Donc, on va vraiment dans le milieu réel pour évaluer la capacité puis la sécurité aussi, bien entendu.
Donc, il est important d'y aller avec les goûts, les préférences des gens.
Oui, dans notre jargon, on appelle ça des affordances.
C'est-à-dire
qu'on va aller vraiment avec ce que la personne aimait, pratiquait et ce qu'elle veut développer. Des fois, c'est de l'exploration tout à fait nouvelle, mais d'autres fois, c'est vraiment important pour la personne d'aller se reconstruire physiquement puis au niveau de l'estime, de reprendre ce qui était déjà là avant.
Vous parlez d'intégration, Lucie Duchesne, mais il y a aussi une adaptation, c'est-à-dire que si cette personne-là faisait du ski alpin, qu'elle est maintenant en fauteuil, il faut adapter, j'imagine, avec des aides techniques.
Oui, bien sûr. Si on parle de ski alpin, ça peut être du monoski ou bien non, des skis complètement adaptés si on parle de paraplégie. Si on parle d'hémiplégie, pas nécessairement, non, c'est vraiment des choses assez simples. Et ce qu'on fait, c'est qu'à force d'avoir été chercher des informations, d'avoir pratiqué sur le terrain, on a développé des choses relativement simples, qu'on ne va pas acheter tout fait, mais qu'on va adapter à l'équipement qui est déjà en place.
Et tout ça, bien sûr, pour que la personne, suite à sa réadaptation, poursuive l'activité physique.
Oui, bien sûr. En fait, ce n'est pas de reprendre le sport. La difficulté, ce n'est pas au niveau technique, au niveau du sport comme tel. C'est que la personne doit maintenant accepter que c'est un peu plus lent, que c'est légèrement différent, et le regard des autres aussi.
Oui.
Oui.
On a parlé beaucoup des bienfaits physiques sur le corps, mais il y a aussi tout un aspect santé mentale. Bon, l'intégration sociale, ça a à voir également. La gestion du stress, est-ce que vous voyez des bienfaits à ce niveau-là?
Oui, si on s'en va dans un domaine plus médical hormonal, on voit vraiment des changements au niveau de la santé mentale. Mais ne serait-ce que de refaire partie de la vie de tout le monde, d'avoir une activité normalisante, que ce soit avec la famille, avec des amis ou avec des nouveaux collègues qu'on se fait à travers la réadaptation. Souvent, il va y avoir des associations qui vont permettre justement ça. Mais au niveau de la qualité de vie et surtout du bien-être que ça peut procurer au niveau mental, il y a une énorme différence. Mmh. On brise tout à fait l'isolement à ce moment-là. Mmh.
On amène de quelle façon la sécurité? Je pense à quelqu'un qui pourrait avoir des soucis d'équilibre suite à un accident, un souci de santé, le rassurer à aller quand même de l'avant dans ses activités.
Bien, en fait, ça fait partie un peu de notre job, là, c'est-à-dire de travailler avec le client d'abord en individuel. On va choisir nos milieux. Si c'est des troubles d'équilibre, on va d'abord prioriser la piscine pour évaluer mm-hmm. quelles sont les capacités maximum. On évolue aussi avec la personne. Et par la suite, des fois, on est obligé de dire que c'est impossible parce que c'est mm-hmm. un problème de sécurité. Mais d'autres fois, la famille est présente. Il y a des gens qui sont prêts à faire aussi certaines choses pour aider la personne à reprendre des activités. Mais ça fait vraiment partie de notre job de mettre des pronostics réalistes avec le client. Des fois, il y a une partie qui se fait conjointement avec d'autres intervenants, que ce soit en psychologie ou en travail social. On va travailler de pair avec ces collègues-là.
Mm-hmm. Parce que le client se fixe, en collaboration avec vous, j'imagine, des objectifs.
Oui, bien sûr.
Et vous êtes là pour les valider, dire « Ouh, peut-être tu vas trop vite » ou « Oh non, non, on pourrait pousser ».
Mais en fait, au début, c'est vraiment de tisser les liens de confiance. Ouais. Donc, des fois, le client, en fait, je dirais souvent, le client arrive avec un objectif très élevé, des fois peu réaliste, mais on part toujours avec ça. C'est-à-dire qu'on va partir avec ça, mais ça va être à nous à recadrer. Et souvent, la personne va faire ce cheminement-là presque seule, d'évaluer, de voir s'ils sont capables ou non. Mais nous, on s'assure toujours d'avoir des micro-objectifs.
Oui.
Parce que la personne va mettre un objectif élevé et va perdre de vue toutes les améliorations, les petites améliorations, puis là, ça va aller toucher l'estime de soi.
Oui. Et il y a la gestion des deuils dans tout ça. Bon, vous parliez que vous travaillez en équipe multidisciplinaire avec des travailleurs sociaux, des psychologues. J'imagine parce que avec un souci de santé ou suite à un accident, il y a des choses qu'on laisse aller. Nos habiletés motrices ne sont pas les mêmes, notre équilibre, comme on en parlait tout à l'heure. Et ça se gère comment avec le client?
En fait, on a deux niveaux à lesquels on peut intervenir. Oui, il y a au niveau de la psychologie, d'aller discuter, d'aller parler, d'aller ventiler. mais souvent, l'approche la plus efficace, c'est au niveau du senti. C'est-à-dire que moi, je vais mettre avec le client en situation réelle et tranquillement, pas vite, il y a un cheminement qui se fait où la personne va se rendre compte assez facilement que, oups, peut-être que c'était exagéré comme objectif, il va réajuster. Et des fois, à force d'explorer, on finit par trouver autre chose et la personne découvre des choses qu'elle ne connaissait pas.
Oui.
Donc, souvent, le senti va faire une bonne partie du travail.
Et j'imagine qu'elle découvre aussi parfois des activités qu'elle ne connaissait pas, qu'elle appréciait, qu'elle ne faisait pas nécessairement avant et peut-être même devient plus actif qu'avant ce changement dans sa vie.
Souvent. Ouais. Très, très souvent.
Et ça doit être une très belle réussite pour vous, Lucie Duchesne.
Ben oui, en fait, c'est sûr que c'est un travail de pair qu'on fait avec le client. Mais souvent, la personne, avant d'avoir un accident cérébrovasculaire, était très occupée dans la vie, travaillait, avait un rythme de vie qui ne permettait pas. Et là, maintenant, les gens, bon, cherchent à découvrir des choses et c'est à ce moment-là qu'ils vont se permettre d'explorer.
Mm-hmm.
Mais oui, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est un maintien à long terme. Donc, quand la personne découvre quelque chose qui la remplit, bien, on est assuré qu'elle va se maintenir dans cette activité-là à long terme.
Et est-ce que l'un des facteurs de réussite est justement la présence de la famille ou des proches dans cet accompagnement-là vers l'activité physique?
C'est un facteur gagnant.
Mm-hmm.
Pas toujours, parce que souvent, ils vont rencontrer des nouvelles personnes qui ont les mêmes atteintes qu'eux.
Oui.
Et ils vont développer un lien particulier où ils n'ont pas toujours obligé d'expliquer, de mettre des mots, mais qui vont développer une connexion, en fait, particulière que des fois, les proches ne comprennent pas.
Uh-huh.
Fait que oui, c'est un facteur gagnant, mais pas toujours et pas que ça non plus.
Donc, vraiment, de bouger avec les pairs peut en être un plus probant.
Oui. Oui. Bien sûr.
En terminant, Lucie, j'aimerais ça que vous nous parliez de ce projet, le projet Montagne, si je ne me trompe pas, le défi Montagne.
Oui, oui, parce que c'était tout un défi. En fait, ce qu'on voulait savoir, c'est que souvent, quand on rencontre un nouveau client, la partie la plus difficile, c'est d'évaluer le profil du client, parce que les gens ne viennent pas chercher les mêmes choses, donc ils n'ont pas besoin des mêmes outils. Donc, on a monté un groupe avec multiclientèle, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire qui ont des compétences très différentes ou des handicaps très différents. Et on voulait réussir à monter 3 montagnes de niveaux différents jusqu'en fait, on a monté le Mont Offord. Et c'est à partir d'un outil qui est un questionnaire qui évaluait les profils types des sportifs ou des gens qui avaient une habitude de vie active pour après ça leur donner les bonnes façons d'intervenir, mais des bons outils cliniques qui allaient leur maintenir à long terme. Donc, on entraînait ces gens-là pendant 6 semaines pour, après ça, qu'ils aient à faire la montée, la montagne, ce qui leur a permis de se dépasser, mais tout en respectant leurs limites. Alors, il y avait vraiment un niveau de fierté qui était très élevé, mais le but, c'était d'avoir un outil clinique qui nous permettait de pouvoir le passer aux clients pour cibler plus rapidement leurs besoins.
Et il y avait aussi un apport de motivation, je pense, dans le défi montagne, d'évaluer la motivation.
Oui, tout à fait. Il y avait où ils étaient encadrés par, on était 3 kinésiologues qui travaillaient sur ce projet-là. Et il y avait aussi la motivation qu'on allait vérifier parce qu'ils faisaient aussi des choses à l'extérieur. Donc, c'était de voir est-ce que le fait d'être en groupe, est-ce que c'était le fait d'avoir un programme personnel, d'avoir des objectifs aussi, de voir leur amélioration? On voulait chercher, on voulait trouver, en fait, qu'est-ce qui était mm-hmm. le plus motivant pour les gens à maintenir une activité à long terme.
Et j'imagine, dans le but de ramener ces informations-là au cœur même du Centre de réadaptation Lucie Bruneau et d'appliquer vos découvertes.
Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'est que peu importe la clientèle avec laquelle les kinésiologues travaillaient, ils pouvaient se servir de cet outil-là pour cibler rapidement les besoins de leurs clients, peu importe leur handicap, oui.
Donc, Offord, et après, est-ce qu'il y a d'autres montagnes que vous allez grimper?
En fait, Offord, c'était quand même le maximum que les clients pouvaient. On était très fiers aussi, là. C'est quand même un mont qui est exigeant. On a fait 11 kilomètres pour des gens qui avaient à peine la capacité de faire 3-4 kilomètres au
wow.
départ. Donc, on a quand même... ils ont travaillé très fort, en fait. Nous, on a encadré, mais c'est eux autres qui ont fait tout le travail.
Eh bien, un très beau défi, en effet, Lucie Duchesne. Je donne l'adresse du Centre de réadaptation www.luciebruneau.qc.ca. Vous êtes kinésiologue à ce centre-là, Lucie Duchesne. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Il y a deux semaines, je vous avais demandé une demande spéciale. On parlait d'appendice et je vous disais, bon, ces petits bouts-là dont on n'a pas vraiment de besoin, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, les amygdales, c'est un petit peu la même chose. Et parce qu'on est encore dans la saison des virus, des maux de gorge, je trouvais
Mais
que c'était
oui.
approprié. Les amygdales, c'est un petit bout là, qu'on ne voit pas, on ne peut pas vraiment le palper. On l'oublie peut-être parfois, mais il a des rôles importants.
Oui, les amygdales sont des tissus lymphoïdes, produisent des anticorps et augmente le système immunitaire et protège contre les inflammations, contre les bactéries, les virus.
Et
ça fait partie du système de défense du corps.
Et ça se corse un peu quand ça s'infecte.
Oui, ça commence par s'inflammer. S'inflammer, c'est vraiment comme le tissu devient rouge puis un peu enflé. Qu'est-ce qui va produire ça? Ben, un virus, mm-hmm. une bactérie, ou de l'irritation d'un allergène, ou un air trop sec. Alors, ou quand il vente trop dehors. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais souvent, ce qu'on voit, puis dans à peu près 80 % des cas, ce sont des virus qui vont affecter la gorge. Si on prend tout l'organe au complet, c'est la gorge, on a le pharynx, et puis on a les épiglottes ici, juste à l'entrée de la trachée. Alors, selon la partie qui est atteinte, qui a de l'inflammation, on va appeler ça une pharyngite, une amygdalite, une épiglottite. Mais tout ça fait partie d'un mal de gorge.
Est-ce qu'on peut s'en rendre compte, parce que je disais tout à l'heure, on ne les voit pas, est-ce qu'on peut les palper, les amygdales?
Bien, on va les ressentir.
OK.
On va ressentir une douleur, on va ressentir une sécheresse, puis on va ressentir surtout une difficulté à avaler. Et cette douleur-là va se manifester lorsqu'on avale surtout. Mais quand le mal de gorge est plus avancé, les amygdales sont plus grosses, plus enflées, une autre étape du problème, oui, on peut palper par en dessous les
près de la mâchoire.
Oui, c'est ça. Oui. Dans le trou ici, on pourrait, oui, les palper, mais on va surtout les voir directement en ouvrant la bouche puis en tirant la langue parce que là, on va les apercevoir. Normalement, on les aperçoit, deux petites boules à l'arrière visible de la langue, mais le médecin va les voir avec sa lumière, puis ils vont enfler, ils vont être grosses, puis ils vont être vraiment avec des taches blanches des fois aussi.
C'est peut-être une infection qui est plus commune chez les enfants. Ça touche les adultes aussi, je sais.
Oui, ça touche les enfants, 5 ans, 10 ans. Même plus jeune, mais ça touche tout le monde parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup avec beaucoup de monde autour de nous. Les enfants vont en garderie, nous, on travaille dans des bureaux où on côtoie beaucoup de monde, on va dans les transports publics, on côtoie beaucoup de monde. Alors, on attrape les virus comme le rhume ou la grippe, c'est le début. L'amygdalite ou la pharyngite, c'est le début d'un rhume ou d'une grippe, n'est-ce pas?
Qui se complique.
C'est-à-dire que ça, c'est le début, c'est un symptôme.
Okay.
C'est le premier symptôme très souvent. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand ça fait très mal puis que ça dure plus qu'une semaine et qu'on a vraiment de la difficulté à avaler et que y a beaucoup d'enflure. Alors là, on va consulter. Lorsqu'on fait beaucoup de température, là, on va consulter. Parce que ça peut être le symptôme d'une affection plus grave aussi. Alors, il va falloir qu'on sache, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est une bactérie? Puis la seule façon de savoir qu'est-ce que c'est la cause du problème, c'est de faire un prélèvement de gorge. Après 24-48 heures, on sait ce que c'est. Parce que maintenant, les médecins sont plus réservés à donner des antibiotiques, n'est-ce pas? On en a donné beaucoup déjà. Avant ça, on enlevait carrément les amygdales. On faisait des amygdalectomies à la tonne, mais ces temps-là sont terminés. Alors, même qu'on va laisser le symptôme se guérir par soi-même, comme un rhume, on va tout simplement laisser aller. Puis on va essayer de se reposer, de boire de l'eau, d'avoir de l'humidité dans notre environnement. Pour la gorge, on va ajouter des gargarismes. Des gargarismes avec de l'eau salée, une demi-cuillère à thé d'eau salée, le miel, des bonbons de citron. Et puis, on va s'hydrater beaucoup également.
Et j'imagine que la meilleure façon de prévenir, c'est la même chose que pour un rhume, une grippe.
Oui, laver les mains et se reposer, boire de l'eau. Puis, quand on pense qu'on est infecté ou qu'on a vraiment attrapé quelque chose, bien, on ne va pas aller se toucher la bouche, les yeux, le nez. Puis, on
Oui, parce que c'est contagieux.
On évite de donner des bisous. Mmh.
Voilà. Pour les enfants, est-ce que ça se passe différemment? Bon, je lisais que ça touche plus les enfants âgés entre 3 et 7 ans.
Oui.
Parfois, ils n'ont pas toujours les mots pour exprimer leur douleur. Est-ce qu'on doit procéder différemment?
Bien, c'est-à-dire qu'on va regarder comment ils mangent. Souvent, ils vont arrêter de manger. Alors, on va aller vers les purées, les petites quantités plus souvent. On va continuer de les hydrater le plus possible. On va leur donner des suçons. Les adultes aussi, on peut sucer de la glace. Mais chez les enfants, on va surveiller pour pas que ça s'en aille, que ça se complique. La complication, c'est des épiglottites ou des pneumonies.
Mm-hmm.
Alors, mais par exemple, comme ce qu'on appelle l'hémophilus influenza de type B, on avait ça avant beaucoup, mais on a vacciné beaucoup nos enfants en bas âge sur le HIB qu'on appelle. Tous les bébés reçoivent maintenant dans leur vaccination de base le vaccin contre l'influenza, hémophilus influenza.
OK. Parce que l'un des risques aussi, c'est l'amygdalite chronique.
Bien, l'amygdalite chronique, c'est-à-dire que là, on va travailler pour que la personne... C'était possible. Je vais reprendre. C'était possible quand on donnait beaucoup d'antibiotiques, puis là, ben, on ne développait pas notre résistance.
Uh-huh.
Ah, mm-hmm. Voilà. Alors là, maintenant, on donne moins d'antibiotiques, puis on laisse développer notre résistance.
Mm-hmm.
Mais chaque année, chaque hiver, on va toujours, des changements de température parfois, on va toujours être susceptible d'attraper des rhumes, des grippes, dont le premier symptôme, souvent, c'est un mal de gorge.
Ouais. Et Jocelyne, quand ça ne fait plus et qu'il faut les retirer, ces amygdalites-là, et il paraît que c'est hyper douloureux.
Bien, c'est hyper douloureux après la chirurgie, oui, parce qu'effectivement, c'est vraiment comme directement dans la gorge et on ne peut pas manger. Il y a des sutures dans la gorge. Alors oui, les premiers jours sont loin d'être confortables, mais les médecins donnent des médicaments. On se rince la bouche avec des gargarismes. On prévient les hémorragies dans les premiers jours.
Ah oui, oui.
Et puis, on surveille la température pour pas que ça s'infecte non plus. On ne veut pas par-dessus ça, attraper une infection. Et puis, on mange de la crème glacée, on mange des glaçons, tout ce qui est en purée. Ça dure une bonne semaine, je dirais. Après ça, ça reprend tranquillement la normalité.
Et rapidement, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là à les retirer complètement?
Bien, comme vous dites, une amygdalite chronique, une amygdalite qui ne guérira jamais puis qui revient à répétition. C'est rare qu'on en fait aujourd'hui, mais il peut arriver qu'on en fasse à l'occasion.
Jocelyne Gadbois, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous avoir ici avec nous une fois par deux semaines. Vous êtes notre infirmière en résidence, comme je me plais à le dire.
Mais oui!
Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là tout au long de cette semaine. On vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Ben, profitez-en pour vous reposer et prendre de l'air. Et nous, on sera de retour dès lundi, bien reposé. Je vous souhaite de vous porter bien d'ici là et je vous embrasse. Bye bye!